dans Actualité, comme tous les vendredis, actualité de la recherche, actualité de la collecte d'archives. Fin de ce vendredi, comme chaque semaine, la séquence « C'était à la une » mettra en avant, avec le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, un article de presse, aujourd'hui celui qui traite du massacre des Indiens à Wounded Knee en 1890 et qui donne l'occasion à La Justice, le journal de Clémenceau, d'une diatribe contre les troupes américaines et la tragédie indienne qu'elles ont produite. Auparavant, Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales, nous présentera la grande collecte d'archives qui aura lieu demain autour de l'histoire des femmes. Et pour commencer, nous saisissons l'occasion de journées d'études organisées à Marseille pour l'une il y a 8 jours et à Paris la semaine prochaine autour du travail historique de 2 historiens, Benjamin Stora et Gérard Noiriel de l'autre côté. Avec eux deux, nous nous demanderons comment s'est installé depuis 40 ans le champ de l'histoire de l'immigration. Bonjour à vous Gérard Noiriel, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et on va rendre hommage à votre travail. Ça sera dans la semaine prochaine, pendant 2 jours, jeudi et vendredi, c'est cela ?
C'est ça, oui.
Autour du travail que vous avez mené, c'est l'occasion de réfléchir à l'itinéraire qui a été le vôtre, mais aussi à ce que vous avez pu apporter aux étudiants et aux étudiantes qui ont été les vôtres et qui continuent à travailler pour beaucoup d'entre eux. Et ça sera donc l'occasion de réfléchir à un champ particulier qui a été le vôtre, celui de l'histoire de l'immigration, mais pas simplement de l'ensemble de votre travail au moment où sonne l'heure de la retraite, c'est cela Gérard Noiriel ?
Oui, enfin, les retraites comme on peut les concevoir dans notre milieu, c'est-à-dire c'est une étape effectivement importante, mais c'est pas une fin.
Voilà. Et donc effectivement, nous avons avec nous depuis les studios d'Ajaccio de Frequenza Mora, Benjamin Stora. Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Vous, c'est déjà fait cette journée d'hommage et d'études justement de la part de vos étudiants. C'était à Marseille il y a 8 jours au MUCEM et vous aviez réuni autour de vous, plutôt vos étudiants et vos étudiantes avaient réuni autour de vous donc des chercheurs venant des États-Unis, d'Algérie, du Maroc, de France, d'un peu partout pour réfléchir à votre propre travail et votre travail qui lui aussi, comme celui de Gérard Noiriel, est assez proliférant et qui ne se concentre pas sur un seul aspect de l'histoire. On va parler aujourd'hui d'histoire de l'immigration puisque vous êtes donc président du conseil d'orientation du Musée national d'histoire de l'immigration et que cela fait partie intégrante de votre propre travail, Benjamin Stora, mais vous avez bien évidemment d'autres casquettes et d'autres flèches à votre arc, et en particulier un travail de longue haleine sur l'histoire de l'Algérie. Cette histoire de l'immigration, vous la fréquentez depuis le début de votre travail d'historien ?
Oui, parce que j'avais établi la biographie de Messali Hadj, qui était un des grands leaders du nationalisme algérien, qui lui-même était un immigré. Et donc j'ai commencé en fait à travailler sur l'immigration, mais à partir du nationalisme et à partir de la question coloniale. En 1978, donc j'ai soutenu cette thèse qui a été publiée en 1982. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai prolongé ce travail à partir de cette biographie sur d'autres biographies, puisque j'ai établi 600 biographies de militants algériens qui sont parues en 1985. Et la plupart de ces militants étaient effectivement des immigrés et algériens. Principalement d'ailleurs, beaucoup étaient originaires de Kabylie. Et puis après, la soutenance d'État en 1991 sur l'histoire politique de l'immigration algérienne en France. Donc il y a effectivement la question de l'immigration, mais derrière cette question de l'immigration dès les années 70, il y avait la question coloniale. Et ça, je crois que j'ai pu le faire dans une sorte d'effet de souffle de 68. C'est pas un mystère de dire que j'ai été un militant d'extrême gauche à cette époque-là.
Là, vous l'avez écrit d'ailleurs dans plusieurs livres,
dans le dernier d'ailleurs,
le dernier 68 et après, qui vient tout juste de sortir chez Stock.
Tout à fait.
Les héritages égarés.
Voilà, et c'était l'effet de souffle de 68 et les questions de situation, de société en révolution, notamment algérienne, qui m'ont intéressé dans les années 70. Mmh. Et derrière cette question politique des processus révolutionnaires à l'œuvre, il y avait la question des nationalismes et la question coloniale. Mmh. Et niché au cœur de ces questions, il y avait l'immigration.
Oui, évidemment, 68 est très important. Dites-vous, vous aussi, Gérard Noriel, vous êtes exactement contemporain de Benjamin Stora. Vous êtes nés en 1950 tous les deux. Mmh. Et donc, effectivement, 68, c'est très important, dites-vous, pour comprendre comment émerge ce champ de l'histoire de l'immigration dans les années 70, à la fin des années 70 et au début des années 80.
Tout à fait. Je raconte d'ailleurs actuellement dans ce qu'on appelle une conférence gesticulée pour notre association, mon propre itinéraire par rapport à 68. Comment, voilà, quelqu'un qui venait d'un petit village des Vosges a pu progressivement, voilà, s'ouvrir et découvrir toute une série de questions, dont cette question de l'immigration. Mais moi, ça a été beaucoup à partir, donc, de la lutte ouvrière dans le bassin de Longwy, dont on va célébrer cette année, fin de l'année, le 30e anniversaire, la grande grève des ouvriers sidérurgistes de Longwy. À laquelle j'ai participé.
40e anniversaire.
40e, pardon. Oui, le temps passe tellement vite que, voilà. Donc, où j'étais enseignant à l'époque dans la région. Mm-hmm. Et donc, j'ai été stupéfait de voir qu'effectivement, personne ne prenait en compte l'importance de l'immigration pour comprendre cette lutte ouvrière qui était une manière de revendiquer, comme le slogan le disait à l'époque, nous voulons vivre, étudier à Paris. Donc, ça a été le point de départ, donc, de mon travail où j'ai toujours conçu, moi, la recherche, donc, effectivement, comme une démarche socio-historique, mais je dirais par en bas, c'est-à-dire les effets de la politique sur les individus, et j'ai continué dans cette perspective-là.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites dans un article que vous avez publié dans Hommes et Migration, une revue qui a une importance considérable pour cette histoire, parce que c'est une revue qui se crée en 1967, donc avant justement la crise, en particulier la crise économique des années 70, c'est une revue qui réfléchit depuis un certain temps, par la fusion d'autres revues, donc à cette naissance et cette présence de l'immigration dans le territoire, sur le territoire français, le territoire métropolitain. Mais vous avez donc, dans Hommes et Migration, en 2007, écrit un article où vous disiez que cette histoire de l'immigration, elle naît d'abord dans la sociologie, chez des sociologues, et que les historiens s'y mettent ensuite, et souvent d'une façon secondaire qui devient centrale, c'est-à-dire ils s'intéressent à l'histoire ouvrière et ils s'aperçoivent comme vous qu'il y a des immigrés et qu'il faut travailler peut-être sur ce sujet-là, ou ils s'intéressent sur les relations, aux relations internationales entre pays du Sud et pays du Nord, et ils s'aperçoivent que c'est utile de remettre cette question de l'immigration au centre de leurs propos.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'effectivement, la question de l'immigration, qui était extrêmement marginale, y compris en sociologie, on pourrait refaire l'itinéraire de Sayad, etc., mais était très fortement connectée à la question coloniale. C'est-à-dire, pour les sociologues, l'immigration commençait avec... Donc là, c'était un effet aussi de 68. Hein, et donc, moi, dans ma perspective, qui avait aussi une dimension civique, je voulais essayer de construire l'objet immigration, lui donnant une dimension universelle. Mm-hmm. Parce que le sentiment de focaliser sur notamment sur les Algériens alimentait, je dis pas que évidemment c'était la responsabilité des chercheurs, mais l'idée d'un problème spécifique à l'immigration. Donc l'idée, c'était de montrer qu'il y avait des points communs entre diverses immigrations
italiennes, polonaises,
etc., et que finalement ça m'a amené, c'est comme ça que j'ai défini l'immigration, comme une dimension de la socio-histoire de l'État. C'était, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'État, c'était plus sur l'immigration que sur les immigrés.
Et cette sociologie, vous l'avez évidemment croisée vous aussi, parce que vous êtes thésard aussi en sociologie, Benjamin Stora, et vous aviez dans votre journée d'études qui vous était consacrée au MUCEM à Marseille il y a 8 jours, il y avait là Marie Stripier qui est une des premières, sinon peut-être la première sociologue à avoir soutenu en 1977 une thèse de troisième cycle en sociologie sous la direction d'Alain Touraine sur les problèmes posés par les travailleurs immigrés au mouvement syndical.
Oui, tout à fait. Marie Stripier, j'ai enseigné ensuite avec elle à l'université de Paris 7. Elle a été une des premières, sociologues d'ailleurs, à soutenir une thèse sur l'immigration ouvrière en France. Mm-hmm. Il y avait aussi à cette époque-là un autre sociologue algérien, Hassan Zerraoui, qui travaillait sur l'histoire des travailleurs algériens en France, mais aussi des historiens, comme René Galissot,
oui,
qui enseignait à Paris 8.
Il ne faut pas oublier René Galissot.
Et René Galissot était historien. Il travaillait déjà dans les années 70 comme historien sur les immigrés, sur l'immigration. C'est le cas aussi d'autres historiens qui travaillaient déjà, comme Émile Temim, qui travaillait aussi sur l'histoire de l'immigration, mais aussi d'autres historiens encore qui commençaient à travailler dès les années 70 et que j'avais croisé dans des séminaires de recherche, comme par exemple Pierre Milza ou Janine Ponti, qui travaillaient sur les Italiens ou sur naturellement les Polonais. Donc c'est, il y avait bien sûr la question coloniale, mais fondamentalement c'est vrai que la question de l'histoire générale de l'immigration était placée en banlieue de l'histoire. À la périphérie de l'histoire. Et il a fallu un énorme investissement des chercheurs, dont le travail d'ailleurs de Gérard Noiriel avec son livre
très important,
Le Creuset français, qui annonce, qui amorce effectivement un basculement très important de la recherche historique sur cette question.
Oui, Gérard Noiriel, c'est vrai qu'on a, il vient d'être cité par Benjamin Stora, mais la figure de Pierre Milza est une figure à mettre en avant parce que non seulement lui-même a travaillé sur cette question de l'immigration des Italiens en France, mais il a forgé une génération de chercheurs qui, par la suite, ont travaillé avec lui, après lui, sur cette question-là et de façon assez précoce, comme le disait Benjamin Stora, en même temps que Janine Ponti travaillait, et ils sont tous les deux disparus très récemment, on leur rend hommage, sur l'immigration polonaise en France.
Oui, oui, tout à fait. Ça a été justement des gens qui ont été, qui ont contribué à construire le champ, à lui donner, comme le disait Benjamin, aussi une légitimité, parce que c'est très important. Il peut exister des travaux, mais
s'ils sont épars et s'ils sont pas reconnus,
et qu'ils sont pas reconnus dans l'historiographie, j'allais dire légitime entre guillemets, c'est un problème. Et pour nous, je pense que Benjamin sera d'accord avec ça. C'était aussi un engagement civique, c'est-à-dire c'était modifier le champ de la connaissance, donc la façon de concevoir aussi l'histoire de France. C'était très important. Donc il y avait aussi, il y a eu progressivement des convergences qui se sont faites avec justement les historiens de la question coloniale, les historiens de la question de l'immigration. Et c'est ce qui a permis aussi à la nouvelle génération qui est aujourd'hui en activité, dont beaucoup justement interviendront à ces deux journées qui me sont consacrées. Voilà, se sont appropriés tout ça et ont développé leur propre après perspective.
Oui, et ça c'est très important effectivement que de le relier d'ailleurs dans vos deux journées d'études, la vôtre Benjamin Stora à Marseille, comme d'ailleurs celles qui sont consacrées à l'œuvre de Gérard Noiriel en fin de semaine à Paris, eh bien, il y a un champ spécifique qui est l'engagement civique, l'engagement dans la société. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, vous avez imaginé votre travail comme étant séparé de votre engagement pour des associations, pour le soutien à telle ou telle cause qui sont des causes, disons, communes à la société française et qui n'intéressent pas que les historiens, Benjamin Stora.
Oui, bien sûr. Moi, il y a une corrélation très étroite entre l'engagement politique et civique dans les années 80 et mon travail universitaire. Je citerai simplement mon engagement, par exemple, dans des revues comme Sans Frontières, Baraka, en 1984, et puis aussi l'association Générique que j'ai contribué à fonder avec Driss Eliasamy. Cette association qui était chargée de rassembler les archives de l'immigration et qui a organisé une des premières expositions en France sur l'histoire des étrangers en France à l'Arche de la Défense en 1990, Histoire des étrangers, Histoire des libertés. Et c'est cette association d'ailleurs et cette manifestation avec Driss Eliasamy qui quelque part va lancer aussi bien sûr la mission de préfiguration qu'on va connaître dans les années 2000 puisque Driss y va y participer. Mais la question que vous posez est tout à fait essentiel, c'est que c'est les mouvements civiques, citoyens et d'engagement qui ont réussi à faire sortir de l'ombre la question de l'immigration. L'antiracisme en particulier a été décisif. La question de l'égalité des droits a été décisif. Et pour essayer précisément de donner une vision plus large, plus historique, plus importante de cette question de l'immigration, de la désenclaver et de lui donner un sens dans une histoire nationale. Je pense en particulier à cette époque-là, dans les années 80, au travail de Suzanne Citron, qui elle aussi malheureusement est décédée, mais qui avait bien compris aussi à cette époque-là comment faire en sorte fabriquer entre guillemets un récit national où l'immigration pouvait jouer un rôle tout à fait essentiel. C'est les grandes années 80 qui vont grosso modo du grand livre de Gérard Noiriel, de Le Creuset français, jusqu'à cette exposition et ensuite les années 90 en relation avec les batailles, toutes les batailles politiques et citoyennes, eh bien le développement considérable du champ d'études sur la question de l'immigration.
Oui, ce qui est très intéressant, Gérard Noiriel, c'est que vous réfléchissez à cette question de l'histoire l'histoire de l'immigration, de l'histoire de l'immigration, pourrait-on dire, et que vous notez qu'en 1981, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir permet la libéralisation du droit d'association pour les étrangers, que ça a une très grande importance, et à l'instant même, Benjamin Stora parlait de l'association générique, de la façon dont certains des membres de cette génération d'immigrés arrivés en France considèrent qu'il faut rassembler des documents, qu'il faut commencer à avoir des archives qui n'existent pas dans... Enfin, ils pensent qu'elles n'existent pas, elles existent forcément dans les archives d'État, mais qui racontent une autre histoire, pourrait-on dire, de cette façon dont on est arrivé sur le territoire français.
Oui, parce que s'inscrire dans une histoire, c'est un processus d'intégration, on peut dire. Donc c'était ça qui était un des enjeux, c'est donner une histoire à l'immigration, ce qui avait toujours été vu comme dans une actualité. Donc je dirais la mémoire collective avait oublié les phases précédentes. Ça, c'était un enjeu important, ce qui explique qu'avec un certain nombre de collègues, nous avons contribué à fonder le CVUH, la Cité de l'immigration. Oui. Et dont nous avons démissionné en 2007, vous savez, quand Nicolas Sarkozy a mis en place le ministère de l'identité nationale. Ça a été un élément autour de Jacques Toubon, le comité de préfiguration dont parlait Benjamin tout à l'heure, pour essayer de rassembler aussi donc une mémoire, des documents, etc. Et c'est ce qui continue aujourd'hui à exister.
Oui, ce qui est très important, c'est effectivement, il y a une date qui vous est commune, pourrait-on dire, Gérard Noriel et vous, Benjamin Stora, c'est la date de 2005, un projet de loi donc sur la loi du 23 février 2005 sur les caractères positifs de la colonisation, qui d'ailleurs vient rompre une histoire qui pouvait commencer à s'arranger entre la France, dirigée à l'époque par Jacques Chirac, et l'Algérie, parce que cette loi donc va être un coin, pourrait-on dire, dans un processus de rapprochement progressif entre les deux pays, rapprochement que vous connaissez fort bien, Benjamin Stora, et vous vous êtes lancé l'un comme l'autre, en tant qu'historien, contre l'application de cette loi et pour son abrogation, Benjamin Stora.
Oui, cette loi de 1905, de février de 2005, a été... 2005, pardon.
Oh là là, vous êtes âgé, mais vous n'êtes pas si âgé que cela, tout de même.
La loi de 1905, évidemment, vous savez, renvoie à d'autres choses dont on parle énormément aussi, la question de la laïcité, bien entendu.
Bien sûr.
Donc, 2005, c'est la loi sur, entre guillemets, la mission civilisatrice de la France, qui a été violemment rejetée par les pays du Maghreb et d'autres, d'Afrique ou autres, etc., et qui a été un coup de frein, effectivement, aux relations franco-algériennes, qui avaient pris une bonne tournure au début des années 2000, mais là, il y a un incontestable coup de frein, et par conséquent, tout un travail à remettre en chantier sur le problème de la mémoire, disons, de la guerre d'Algérie. Enfin, cette pétition de 2005 avait été initiée aussi par deux grands historiens français, auxquels je rends hommage aussi, j'en profite ce matin, qui est Claude Liozu et Gilbert Meynier. Joué un très grand rôle dans cette initiative. Naturellement, j'étais complètement associé à eux sur cette question-là. Mais 2005, c'est aussi les soulèvements de banlieue.
Oui.
C'est la même année. C'est-à-dire que je crois que sans faire de relations étroites, mécaniques ou autres, quand même, il y a le fait que pour les enfants descendants des immigrations postcoloniales en particulier, il y avait le sentiment quand même du déclassement et du mépris qui existait et qui est lié quand même à cette question de la réhabilitation de la colonisation. Ce sont des éléments très importants et dont on n'a pas fini de mesurer encore les effets aujourd'hui en 2018.
Et sur ce point, évidemment, il y aura une partie de la journée d'études qui vous sera consacrée vendredi à ce rôle de l'intellectuel dans la cité, Gérard Noiriel, et où Nicolas Hoffenstadt présidera une séance où on évoquera justement la naissance de ce comité des usages de vigilance sur les usages de l'histoire qui est directement issu de cette loi de 2005 et qui aura une pérennité puisqu'il existe encore ce CVUH que vous avez présidé dès le départ, Gérard Noiriel.
On a fondé avec Nicolas et Michel Rio-Sarcé, tous les trois, effectivement, pour, à la suite de l'action qui est la pétition que Claude Liozu avait lancée, pour essayer de pérenniser, de fixer, je dirais, un cadre d'autonomisation de la recherche historique par rapport à différentes formes d'attaques, la principale étant celle-là, mais ce n'était pas la seule, parce qu'il nous semblait quand même aussi important de protéger, je dirais, la recherche historique contre les agressions, entre guillemets, de la mémoire, parce qu'on est dans un monde où la mémoire occupe une place de plus en plus grande, ce qui est nécessaire et important, mais qui peut être aussi parfois contradictoire avec la liberté de réflexion et de critique que doivent conserver les historiens.
Oui, alors ça, c'est peut-être un des points sur lesquels on pourrait voir naître un dissensus entre vous deux. Depuis le début de notre discussion, Benjamin Storin, on vous a souvent accusé d'avoir confondu mémoire et histoire, même si vous en êtes toujours défendu, mais vous êtes un historien de la mémoire, et c'est très important dans une société, effectivement, où cette question du mémoriel prend beaucoup de place. Et peut-être aussi sur un autre point, c'est que, on l'a dit depuis le début de notre discussion avec vous deux, Gérard Noiriel attaque la question de l'immigration par le social, pourrait-on dire, et vous l'attaquez par le politique. Est-ce que ça fait une vraie différence, ou est-ce qu'au bout du compte, vous avez trouvé des points de convergence multiples, justement, pour pouvoir s'intéresser à cette question de la place de l'immigration dans la société française, Benjamin Storin?
Je crois que ce sont effectivement des points d'entrée différents. Tout simplement, moi, j'ai jamais opposé le social au politique, mais il me semblait que la question politique était décisive pour le sujet à l'époque qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire la question de la guerre d'Algérie, de la révolution algérienne. C'était la question qui m'intéressait, comme cela m'intéressait par rapport à la société française.
Et comme ça vous intéressait en tant que militant politique d'origine aussi.
Bien entendu. Je veux dire, je veux pas nier mon appartenance politique. Il y a d'autres historiens qui ont des appartenances politiques ailleurs.
Bien sûr.
Donc c'est évident pour moi. D'ailleurs, c'est une tradition historique française de savoir que beaucoup d'historiens, de grands historiens français, ont toujours été engagés. On va pas ici en faire l'inventaire, mais de Bichelet à Vidal-Naquet. Bon, c'est pas disons déshonorant que d'être un historien engagé. Mais la question de l'entrée par la politique était absolument centrale, parce que la France est une terre du politique. Et il fallait pour moi rentrer par cette question-là, mais ne pas en rester là, bien sûr. Lorsque j'ai établi ce dictionnaire biographique de 600 acteurs, 600 biographies, il y avait, bien sûr, j'ai fait la sociologie, puisque j'ai soutenu une thèse en sociologie, et donc il y avait tout l'aspect sociologique de ces acteurs-là, en immigration, et venant de leur région, principalement de la Kabylie, et de leur engagement, et du basculement de cet engagement, du social au politique, et voir comment, effectivement, par la politique, existait l'ascenseur social. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que l'engagement politique et syndical a constitué un point de passage d'entrée dans la société française, ce en quoi les immigrés algériens, marocains, tunisiens, dans le fond, eh bien, opéraient exactement de la même manière que les immigrations antérieures. Il n'y avait pas de singularité culturelle à ce niveau-là. Et la société française, d'ailleurs, ne voulait pas tenir compte de cela et insister davantage sur le différentialisme culturel comme façon d'intégration impossible pour ces enfants d'immigrés déjà à l'époque, alors qu'ils empruntaient un parcours, dans le fond, qui ressemblait en tout point à leurs prédécesseurs, qui, à travers les immigrations italiennes ou autres, effectivement, passaient par les engagements politiques. Et en particulier, d'ailleurs, à cette époque, par le Parti communiste français, la CGT, je parle des années 30, les années 50, mais aussi, ça a été le cas des immigrations postcoloniales. Mais on a introduit, disons, cette dimension à la fois culturelle et politique sur le mode du différentialisme pour empêcher la fabrication d'un récit politique commun. C'était mon objectif, en fait, à cette époque-là, et j'ai jamais varié, en fait, fondamentalement, de cet objectif. Puis ensuite, bien sûr, j'ai été fouillé dans les plis de la mémoire pour savoir pourquoi, en France notamment, on s'évertuait sans cesse à introduire les questions religieuses et culturelles pour freiner précisément la fabrication d'un récit commun et qui se rattachait, qui se reliait aux immigrations antérieures.
Sur ce point, Gérard, voilà.
On est tout à fait en raccord avec Benjamin. Je crois qu'on a là le même objectif civique, et il y a différentes manières de d'avancer vers cet objectif. Donc moi, je suis pluraliste. On a besoin de différentes approches et ce serait complètement absurde de vouloir tout calquer parce que ça réduirait l'apport des historiens. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, je dirais fondamentalement, c'est plus la question des relations de pouvoir que la question politique. Mmh. C'est pour ça que quand j'ai...
Mais quand on dit relations de pouvoir, on est quand même dans le politique d'une certaine façon.
Pas forcément.
La place du citoyen. Non, mais c'est souvent, c'est la place du citoyen face à l'État, par exemple. C'est une question qui vous obsède, ça.
Une question qui m'a toujours vraiment passionné, et encore aujourd'hui, c'est la question de savoir qui parle à la place des autres. Mmh. Donc la question de l'immigration, c'est évidemment centrale, puisque l'immigré, traditionnellement, n'a pas accès à l'espace public. Mais c'était beaucoup plus vaste, c'est pour ça que je me suis intéressé à Foucault, je travaillais avec Bourdieu, etc. Vous voyez, c'était plutôt voilà cette question-là qui m'intéressait fondamentalement. Donc ça, voilà, ça amenait aussi un peu à s'interroger sur la question des porte-paroles, la question de la construction des organisations, et qu'est-ce qui se passait comme relation de pouvoir à l'intérieur même des organisations, comment se construisait. Voilà, c'était des choses.
Mais c'est la question la logique des institutions,
ou la logique des mobilisations, comment les affaires. Que les émotions peuvent être touchées. Et du coup, effectivement, ça m'a amené à m'intéresser à la question de la xénophobie, du racisme, parce que l'immigration, c'est aussi le regard qu'on porte sur l'autre. Donc, c'est un jeu qui concerne tout le monde, finalement. C'est ça aussi qui m'intéressait dans cette démarche socio-historique et qui sera évoquée aussi lors de ces deux journées.
Une des choses qui est quand même tout à fait étonnante quand on se plonge dans les archives de l'immigration, et en particulier les archives audiovisuelles de cette immigration, et vous l'avez fait souvent pour des documentaires, Benjamin Stora, c'est de s'apercevoir que la télévision française, dans les années 70 et dans les années même au début des années 80, était une télévision qui donnait plus souvent peut-être la parole à ceux qu'on appelait de l'immigration ou issus de l'immigration qu'elle ne le fait aujourd'hui, et toujours sur un autre mode que celui que nous connaissons aujourd'hui, avec ce différentialisme que vous pointez du doigt, Benjamin Stora. Il y avait des grandes émissions dans lesquelles on entendait des enfants d'Algériens, des enfants de Marocains, des Marocains eux-mêmes ou de Marocaines elles-mêmes qui s'étaient installés à Gardanne, à Lyon ou en banlieue parisienne, et qui racontaient leur itinéraire de vie devant une caméra.
Oui, tout à fait. La grande émission emblématique de l'immigration, d'ailleurs on a consacré une soirée cette semaine au musée de l'immigration, c'était Mosaïque, qui était la grande émission de l'immigration qui a commencé à la fin des années 70, tout au long des années 80, et qui a été supprimée. Mais ce qui est assez extraordinaire, effectivement, c'est que quand on regarde les archives, par exemple, des grandes émissions des années 60, comme 5 colonnes à la une, on trouve des grands reportages sur le bidonville de Nanterre. Mmh. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on voit ces images qu'on a montrées aussi au musée de l'immigration. Mmh. On a recensé, on a diffusé ces grands reportages de l'époque, avec tous les travers, je vais pas de l'époque, bien entendu, les clichés ou les stéréotypes, mais qu'importe, ça existait effectivement. Il y avait une attention qui était portée à la présence, disons, des migrants en France, c'est assez étonnant, et qui progressivement se perd au fur et à mesure du développement des années 70, puisqu'en 74, la France décide, comme vous le savez, de fermer ses frontières officiellement. Et donc, l'immigration change. Elle devient totalement menaçante, inassimilable. Et on a progressivement aussi la montée du racisme en France. Ne l'oublions pas, dans les années 70, avec les meurtres racistes. Avant 81, c'était déjà... Moi, je me souviens, engagé, très engagé politiquement sur cette question du racisme, notamment dans des villes comme Marseille, dans ces années-là. C'est pas un hasard si c'est à Marseille que...
L'hommage qui vous a été rendu.
M'a été rendu par des vieux militants qui sont des vieux camarades aussi de Marseille, avec qui j'avais combattu à cette époque-là, bien entendu. Et il y avait, un glissement qui s'est opéré sur le plan à la fois politique et culturel, où on a effectivement séparé la question de l'immigration de ce que pouvait être un récit traditionnel, entre guillemets, français. Et ça, ça s'est accentué au long des années 80, et tout le travail historique des chercheurs a été sans cesse d'essayer de raccorder, disons, cette histoire particulière à une histoire générale. Et ce travail n'est pas fini, malheureusement, parce que c'est un travail difficile, parce que la société française, des résistances considérables, et la production académique ne suffit pas, même si elle est absolument nécessaire, mais il faut un engagement citoyen.
Sur ce point, Gérard Noriel, votre engagement avec d'autres chercheuses et chercheurs pour la création de cette cité d'histoire des migrations, qui est devenue donc le musée donc que préside aujourd'hui Benjamin Stora dans les années 2000, au cœur des années 2000, cet engagement, c'était justement pour faire cela. C'est ce que vient de dire Benjamin Stora, pour recoudre, pourrait-on dire, ce discours entre discours sur l'immigration et discours sur une France qui ne connaîtrait pas l'immigration. Là, c'était la possibilité de le recoudre, mais ça s'est mal passé dès le départ, pourrait-on dire.
Oui, disons qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Je ne vais pas refaire le passé ni jouer les anciens combattants, mais effectivement...
C'est toujours intéressant de voir d'où viennent justement les institutions que nous connaissons aujourd'hui.
Voilà, donc il y avait une première association qui a été créée, justement, parce qu'il nous semblait scandaleux qu'il n'y ait pas de lieu de mémoire dédié à cet aspect fondamental de notre histoire. Mmh. Puisque je rappelle quand même que la France a été un des pays qui a le plus eu recours à l'immigration tout au long du XXe siècle.
Oui, c'est votre thèse sur le creuset français.
Oui, c'est que la France s'est fabriquée comme ça. Et donc, voilà, il y a eu, avec cette première association, dont faisait partie Pierre Milza, avec Patrick Vuel, etc., et d'autres collègues, effectivement, tout un travail qui, après, a été plus formalisé, grâce à l'époque de Jacques Chirac, hein, qui était président, donc avec Toubon, et qui, effectivement, avait aussi pour but de réfléchir sur les formes de transposition d'un savoir historique dans des langages qui soient accessibles à des non-spécialistes. C'est ce qu'on continue à faire, puisqu'après la démission du CVEA, j'ai créé une autre association qui s'appelle DAJA, qui existe encore, qui est une association d'éducation populaire, et nous sillonnons depuis des dizaines d'années la France dans les centres sociaux, dans les petits lieux comme ça, pour toucher des publics qui autrement n'ont qu'un seul discours. C'est celui qui est à jet continu, projeté aujourd'hui par les grands médias qui véhiculent ce discours différentialiste dont parlait Benjamin tout à l'heure. Donc c'est aussi mener avec nos petits outils militants, je dirais, de base, essayer de développer encore un contre-discours, mais avec les résultats malheureusement pas forcément suffisants.
Alors c'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir non pas conclure, on ne nous a pas tout à fait arrivé à la conclusion de notre discussion entre vous, Gérard Noriel, et vous, Benjamin Stora, mais néanmoins, il y a une question qui se pose, c'est l'efficience, pourrait-on dire, du travail que mènent les sciences humaines en général et les historiens rien plus particulièrement sur ces questions-là. Lorsqu'on réfléchit à ces 40 années, à peu près 40 années d'histoire de l'immigration, avec des pionniers, avec du travail mené par les étudiants de ces pionniers que vous êtes l'un et l'autre, Benjamin Stora et Gérard Noriel, on se dit, tout compte fait, ça n'a pas beaucoup progressé. Vous disiez tout à l'heure, Benjamin Stora, que la présence et le discours sur l'immigration n'avaient non seulement pas tellement changé, mais qu'il a été devenu plus dur peut-être ou plus clivant qu'il ne l'était auparavant. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cet apport des sciences humaines, des sciences sociales dont on pense qu'elles peuvent transformer peut-être quand on y croit la société et l'incapacité peut-être à briser certains murs?
C'est un travail difficile parce qu'il faut poursuivre le travail historique, le travail académique. Il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de thèses en préparation. En même temps, bien sûr, il faut poursuivre cette façon qu'on peut avoir de montrer dans le haut grand public. C'est ce qu'on essaye de faire au musée de l'immigration à travers toute une série d'expositions sur les Algériens, qu'on a fait sur les Polonais. On prépare une grande exposition sur Paris-Londres qui aura lieu l'année prochaine. Donc il y a de plus en plus de monde quand même qui vient au musée de l'immigration, notamment des élèves de terminale avec leurs enseignants, notamment de la Seine-Saint-Denis, avec qui on a un partenariat. Et donc on a 30 000 élèves qui ont défilé, enfin qui sont passés cette année au musée de l'immigration. C'est quand même considérable, c'est un travail considérable. Mais le problème, effectivement, c'est que nous avons un discours politique qui, lui, par contre, se durcit, se radicalise sur la question des étrangers en France. Mais ce discours se radicalise dans une situation de montée générale des nationalismes en Europe et des populismes. C'est pas une singularité française. Les frontières se ferment, pas simplement en France, mais dans toute l'Europe. Et on voit bien avec le drame des migrants qui se déroule sous nos yeux en Méditerranée que l'Europe a tendance à devenir une sorte de forteresse. Et donc ça se complique parce qu'on est passé de la question de l'immigré, du travailleur immigré, aux migrants et aujourd'hui aux réfugiés et à l'apatride. C'est-à-dire qu'on a à la fois à affronter la montée des nationalismes au sens classique du terme, ceux qui veulent renforcer absolument les États-nations, et en même temps une mondialisation, une circulation, un passage, une hybridation de la société qui est de plus en plus forte. Et donc on a cette contradiction qui se met en place sous nos yeux actuellement et qui oblige à des réflexions historiques, politiques et culturelles considérables et de ne pas se réfugier dans la paresse intellectuelle pour dire c'est pas possible, c'est inassimilable, et c'est nouveau, on ne pourra rien faire, etc.
Mais vous qui chuchotez à l'oreille des présidents, puisque c'est comme ça qu'on vous présente parfois, Benjamin Stora, et en particulier de celui... Oui, ben, enfin, c'est vrai que c'était mentionné dans votre journée d'études à Marseille, votre rôle de conseiller auprès de François Hollande, et même le fait que le nouveau président vous entend ou vous écoute.
J'ai répondu à la demande, disons, de président de la République, qui veulent discuter effectivement sur les questions, notamment du Maghreb, pour être très précis, et de ce qui se passe dans ces trois pays du Maghreb, notamment en rapport avec les suites sur les révolutions arabes. Ça, c'est mon autre casquette que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. Je ne suis pas exclusivement centré sur les questions migratoires. Donc, c'est à ce titre que j'ai pu les rencontrer, c'est tout. Mais maintenant, il y a des points de divergence, de désaccord ou autre. Moi, je pense que la question migratoire est un défi redoutable parce que la question de la figure, disons, du réfugié et de l'apatride n'est plus celle, traditionnellement, que celle que nous avions de l'immigré. Et donc nous oblige à une réflexion intellectuelle et politique considérable. Et c'est ce travail que font effectivement des chercheurs comme Gérard Noiriel, comme d'autres effectivement, mais malheureusement sans possibilité de relais sur l'action politique qui, lui, n'entrevoit que la solution de type sécuritaire.
Oui, et sans volonté parfois de relais non plus de cette action que vous menez en tant que chercheur, Gérard Noiriel, dans la sphère politique. Vous êtes toujours assez souvent tenu, vous-même, Gérard Noiriel, à l'écart de ce rôle de conseiller ou de proche. Vous voulez bien publier, faire en sorte que vos publications soient lues et reconnues, mais ça n'est pas un rôle que vous voulez tenir vous-même. Vous en êtes assez souvent...
Oui, j'ai toujours refusé ce genre de sollicitation parce que je dirais que...
Parce que c'est déceptif, comme on dit aujourd'hui. Parce
pardon ?
On est souvent déçu dans ces cas-là.
Oui, je l'ai fait quelques fois auprès de conseillers dans les années 80, conseillers de Mitterrand, etc. Et j'étais tellement déçu que des résultats que... Voilà, mais j'en fais pas non plus un acte de bravoure, je m'en fiche, mais je veux dire que les journées ne font que 24 heures, et donc son énergie, il faut savoir l'orienter, et que c'est une question fondamentale. Moi, j'ai pas de réponse absolue, j'ai pu varier au cours du temps, mais je défends un peu la posture de ce qu'on appelle l'intellectuel spécifique, Michel Foucault, et donc je dirais sur c'est une des questions qui sera abordée lors des demi-journées à l'École des hautes études vendredi, donc si vous voulez, les gens que ça intéresse pour avoir plus de détails, voir comment les choses se positionne entre différents points de vue pourront venir à ce moment-là, parce que je crois que ça reste quand même un enjeu, et je voudrais pas être trop désenchanté et de démobilisateur à l'égard des nouvelles générations. Je pense que les combats que comme Benjamin, comme moi ou comme d'autres ont menés restent nécessaires, même si les résultats nous déçoivent, c'est certain, mais ça reste quand même nécessaire, sinon alors là c'est la débandade totale, quoi.
Merci de ce message d'espoir. Ces journées d'études qui vous sont consacrés auront lieu donc à l'École des hautes études en sciences sociales au boulevard Raspail, 14 et 15 juin, donc à l'amphithéâtre François Furet, donc héritage et actualité de la socio-histoire autour de votre personne, Gérard Noiriel. Et pour votre part, eh bien, on peut lire, pour ceux qui trouvent près de chez eux encore un kiosque, malheureusement les kiosques disparaissent, Benjamin Stora est un kiosque international, dans le supplément week-end d'El Watan, qui est paru hier, mais qui était encore en vente, j'imagine, tout le week-end en France, eh bien, on peut lire un compte-rendu très précis de cette journée d'études qui vous a été consacrée. C'est cela, Benjamin Stora ?
Absolument. Il y a tout un compte-rendu très complet des interventions des chercheurs américains, algériens, marocains. Et je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour remercier mes anciennes doctorantes Naïma Yahi et Marie Cheminot qui ont organisé cette journée où ont participé, sont intervenus 45 chercheurs tout au long de la journée. Et ça, ça a été quand même très, très important.
Oui,
ça,
bravo à elles, effectivement.
Et voilà, je voulais les remercier.
Vous avez raison, il faut les remercier. Et Gérard Royel ?
Oui, je voulais terminer en remerciant également, moi, tous mes anciens étudiants qui ont contribué à organiser ces journées, même si, évidemment, c'est des moments assez intenses sur le plan émotionnel, parce qu'il y a un passage de génération, et tant mieux.
Merci à tous les deux d'avoir accepté de dialoguer au cours de cette émission sur les 40 années dernières de l'histoire de l'immigration, telles que vous avez pu les percevoir l'un et l'autre en tant que chercheur sur ces questions. Et pour vous faire plaisir, Gérard Noyel, on va écouter un extrait de Radio Lorraine Cœur d'Acier pour nous introduire au sujet suivant, à savoir la grande collecte sur l'histoire des femmes. Écoutez.
À l'Union locale CGT, c'était une majorité de mecs, des mineurs, des sidérurgistes, donc on avait vachement de mal à avoir notre place. Hein.
Jocelyne Ollier, militante syndicale.
Je veux dire, la première fois qu'il y a eu une grande manif de femmes, ça a été en 79. Où là, on a manifesté. Alors, il y avait, vous êtes jeune, vous. Je sais pas si vous avez connu Christiane Collange, qui était écrivain, qui avait fait un bouquin qui s'appelait « Je veux rentrer à la maison », à l'époque-là. Donc, où elle disait qu'il fallait, c'était le premier chômage, donc il y avait des problèmes, il fallait que les femmes, elles rentrent à la maison, qu'on laisse les mecs travailler tranquilles, quoi. C'était à cause des femmes s'il y avait du chômage. Donc, nous, si, c'est vrai, c'était comme ça. Donc, on avait pris comme mot d'ordre, je ne veux pas rentrer à la maison. Et on a fait une manif en 79, le 8 mars, donc. Avec des casseroles, on tapait dessus, des landaus et tout. Ça a été une manif formidable. Je veux dire, c'est à partir de là que ça a un peu éclaté.
Un morceau de chiffon rouge, c'était un documentaire sur Lorraine Cœur d'Acier, l'aventure inédite d'une radio qui se déroulait dans le bassin de Longwy où vous étiez, Gérard Noyel.
J'ai même participé à cette manifestation.
Un documentaire radiophonique de Pierre Baron, Raphaël Moutard et de Frédéric Rouziès. Un extrait de cette femme qui se plaint de l'attitude des militants, pourrait-on dire, qui veulent qu'elle rentre à la maison. Bonjour François de Banet-Berger.
Bonjour.
Ça fait partie des témoignages que vous pourriez recueillir dans cette grande journée de demain, donc qui s'appelle la Grande Collecte. Les grandes collectes ont été lancées en 2013 par le ministère de la Culture autour de la Grande Guerre et elles se renouvellent avec des thèmes chaque fois différents. Et donc cette grande collecte, cette fois-ci, est consacrée aux archives de femmes. C'est la mission Françoise Thébault de 2017. Et vous allez ouvrir effectivement à Pierrefitte-sur-Seine. Au siège des Archives nationales, vous allez ouvrir les portes à tous ceux et toutes celles qui voudraient bien apporter des documents autour de l'histoire des femmes. C'est cela, Françoise Banat-Berger, vous dirigez les Archives nationales.
Oui, oui, c'est cela, puisque en fait, l'idée c'est de donner une plus grande place aux femmes à travers leurs archives. Hein, donc c'était l'objectif de la mission confiée en Françoise Thébault, comme vous l'évoquiez. Il s'agissait en fait de compenser un certain manque de sources sur l'histoire des femmes. Michel Perrault en 98 parlait des femmes ou des silences de l'histoire, parce que très longtemps l'histoire a été écrit par des hommes sur des hommes, et les traces sur l'histoire des femmes n'étaient pas si nombreuses que ça, même y compris dans nos archives plus d'administration, où souvent les choses étaient biaisées par vues à travers le regard des hommes. Et donc là, cette grande collecte, c'est précisément pour compenser ça et faire en sorte que les femmes sur l'ensemble du territoire prennent conscience de la valeur des archives qu'elles ont par-devers elles et du fait que ces archives, ces traces de mémoire intime, familiale, ces archives personnelles sont un élément du patrimoine national et seraient formidables pour rejoindre en fait nos institutions pour renouveler enrichir en fait l'écriture de l'histoire des femmes.
Voilà. Alors comment ça se passe exactement, cette grande collecte? On vient avec des documents, avec des lettres, avec des photographies, avec des enregistrements, enfin je ne sais, Alors, chez vous, aux Archives nationales, mais aussi ça se passe dans le reste de la France, dans d'autres archives.
Il y a 102 services sur l'ensemble du territoire, archives départementales, municipales et donc archives nationales qui sont impliquées, hein, comme pour chaque grande collecte. Et donc, en fait, ce sont des femmes ou des hommes. D'ailleurs, là, on vient d'avoir un homme qui nous parlait de carnet de cours et d'observation de l'arrière-grand-mère de sa femme, qui était sage-femme, donc au début du XXe siècle. Donc, en fait, il s'agit de nouer surtout un dialogue avec, c'est là, en l'occurrence, plutôt ces femmes qui vont venir chez nous, donc pour les Archives nationales, sur le site de Paris, mais aussi sur le site de Pierrefitte, où en plus on a toute une série de manifestations, de conférences, avec Michel Perrault, avec Julie Verlaine qui va présenter le rapport de Françoise Thébault, avec Ludivine Bantini, etc. Donc on a toute une série de choses, donc de dialogue
demain
avec...
demain après-midi, il faut préciser pour nos auditeurs, s'ils veulent s'y rendre, à Pierrefitte-sur-Seine, demain après-midi, à partir de 13h.
À partir de 13h. Et donc, en fait, il s'agit donc d'ouvrir un dialogue pour, en fait, pouvoir discuter avec tous ceux qui ont l'idée de nous verser, de nous déposer ou de nous donner leurs archives, sous toute forme qu'elles soient. Alors, si évidemment, elles sont très abondantes, c'est pas demain que les personnes vont venir avec des bras pleins d'archives, mais c'est le début d'un dialogue, parce qu'en fait, ce n'est qu'une dynamique. Demain, c'est une journée symbolique pour lancer une dynamique qui va durer très longtemps. Aujourd'hui, nous recevons encore les suites de la grande collecte sur 14-18. Donc, pour dire que c'est un mouvement de fond et qui, d'ailleurs, pour les Archives nationales, vient ponctuer une séance importante aux Archives citoyennes, avec notamment à la suite, d'ailleurs, du rapport de Françoise Thébault. Le 8 mars dernier, en 2017, on avait déjà une table ronde entre des donatrices, des déposantes et plusieurs institutions au centre sur cette question des archives des femmes.
Et merci beaucoup. Et puis, on pourra effectivement prendre exemple sur Michel Perrault, la grande historienne effectivement qui a déposé ses archives aux archives, donné ses archives aux Archives nationales. Merci beaucoup Françoise Malade-Berger d'avoir présenté brièvement cette grande collecte. Donc on a compris qu'elle se tient à partir de demain, enfin c'est demain la journée de départ sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, aux Archives nationales dans le centre de Paris, mais également dans tout un tas d'archives dans le reste de la France, et qu'elle concerne les archives des femmes, les femmes au travail en particulier, que tous ceux et toutes celles qui ont envie de déposer, de donner, de prêter ou de montrer leurs archives viennent dans ces centres d'archives pour pouvoir le faire. Merci encore Françoise Badin-Berger. Bonne journée de demain. Et vous-même, Gérard Noriel, vous les déposez quelque part, vos archives, ou ça va venir?
Pas encore. J'en ai déjà transmis une partie à mon centre de recherche, donc à l'IRIS. Et le reste, pour l'instant, je les garde parce que je continue à travailler quand même.
Merci beaucoup, Gérard Noriel. Il est l'heure de retrouver notre séquence C'était à la une, la séquence qui clôt cette émission du vendredi avec le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, un article tout à fait étonnant de Paul Degouy, qui était un collaborateur de Clémenceau dans la Justice, le journal de Clémenceau, le 4 janvier 1891. Il revient sur le massacre de décembre 1890, appris donc en France quelques jours plus tard, des Indiens à Wooden Knee.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
La justice. 4 janvier 1891. Tragédie indienne. On tire des coups de fusil là-bas. Là-bas, sur les vagues frontières du Dakota septentrional. Deux races d'hommes sont aux prises, des blancs et des rouges. Et tout ce qui se passe n'est malheureusement pas à l'honneur des visages pâles. L'autre jour, au milieu des réjouissances de cette fin d'année, une dépêche poignante nous arrivait de ces lointaines contrées. Pendant que nous fêtions nos enfants, un général américain supprimait une centaine de petits Sioux et massacrait leur mère. C'est horrible. Pour pallier dans une certaine mesure le déplorable effet produit par ce télégramme souillé de sang innocent, les journaux américains parlent, paraît-il, d'une indigne trahison dont les troupes de l'Union auraient pu être victimes. Est-ce bien vrai ? Le contrôle est trop difficile à pareille distance. Mais admettons cette trahison. Excuse-t-elle le massacre de ses femmes et de ses enfants? Hélas, non. Un homme ne peut tirer vengeance que d'un homme. Et l'affaire devait se régler entre les cavaliers américains et les guerriers de la tribu révoltée. Cette révolte elle-même, d'ailleurs, d'où provient-elle? Pour colorer toute cette histoire, pour rejeter sur les Indiens la responsabilité de ce conflit, les feuilles américaines nous ont parlé de je ne sais quel messie excitant les peuplades du Dakota à une sorte de guerre sainte. Mais un jour, on met la main sur ce prophète d'un nouveau genre. C'était un simple idiot, incapable d'une réelle action sur ses concitoyens. Il faut donc chercher autre chose. Mais point n'est besoin de chercher longtemps. Si les Indiens se sont révoltés, c'est qu'on les vole, c'est qu'on les pille, c'est qu'on les chasse. À peine un arrangement est-il intervenu entre l'Union et les anciens possesseurs du sol. À peine une réserve est-elle achetée. À peine les Indiens se croient-ils tranquilles dans leur territoire rétréci que surgissent du côté des Blancs des exigences sans cesse renaissantes. Comment s'étonner ensuite du désespoir qui s'empare de tribus continuellement refoulées? Ce sont des hommes. Ils sont chez eux. Quelle est donc la bête qui, traquée dans son refuge, n'essaye pas de se défendre? Et ces agents des affaires indiennes que le gouvernement fédéral entretient sur les réserves mêmes des Sioux et qui jouissent en fait de pouvoirs illimités, sont-ils à la hauteur de leur mission? Sont-ils animés d'un véritable esprit de justice? Leur probité est-elle à l'abri de tout soupçon? Serait-ce montrer, par exemple, trop de curiosité que de demander la publication des rapports que le gouvernement a dû recevoir avant la dernière révolte de ses inspecteurs des affaires indiennes au Dakota? Et quand cette insurrection sera réprimée, ne serait-il pas utile de procéder immédiatement à une enquête sur les causes véritables du mouvement? Si favorable que puisse être aux agents du gouvernement l'enquête parlementaire qui sera certainement réclamée, ces résultats ne sauraient effacer la pénible impression causée dans le monde entier par le massacre de Porcupine Creek. Si tout acte de barbarie nous inspire une horreur profonde, que pouvons-nous dire d'une atrocité commise par la race blanche sous prétexte de civilisation? Pour nous qui nous élevons, partout où nous la rencontrons, contre cette cruelle formule, la lutte pour la vie, avec laquelle on s'efforce d'excuser tant de crimes sociaux, pour nous qui croyons toutes les races humaines susceptibles de perfectionnement et d'éducation, pour nous qui ne cessons de plaider en faveur des humbles et des faibles, pour nous qui n'avons jamais su entendre sans tressaillir le cri de la douleur humaine quand cette douleur est le fait d'une injustice, nous ne pouvions pas ne pas protester contre cette épouvantable tragédie. Nous éprouvons trop de sympathie envers la grande République américaine pour ne pas déplorer profondément la tâche faite à son drapeau étoilé. Paul de Gouy.
Voilà pour ce formidable texte lu par Hélène Losseur dans une réalisation de Séverine Cassard enregistrée au lycée Jacques Decourt. La semaine prochaine, la Fabrique de l'Histoire vous parlera de Quand l'Histoire fait scandale. On évoquera à la fois Renan, mais également les tirailleurs de Tiaroy lundi. Et puis on parlera également de tout un tas d'autres scandales historiques tout au long de la semaine. L'histoire continue bien entendu tout le week-end sur France Culture, et en particulier avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet qui recevra Anne Carole autour de la question des médecins devant la mort. Signalons également que l'émission Métronomique à 14h sur France Culture traitera aujourd'hui de Los Angeles dans les années 70, et Benjamin Stora nous fait dire qu'il était présent à Ajaccio pour un festival, Les Racines du Ciel, sur la culture méditerranéenne, où il donnera une conférence. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Emmanuel Morsdinkan était avec nous à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.